9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche, bienvenue dans C'est arrivé demain. Le dernier numéro du débat sera mis en vente jeudi prochain. La célèbre revue se saborde. Ceux qui la dirigent, j'invoque la baisse du niveau culturel de la société, mais aussi de ses élites. Le philosophe Marcel Gaucher, son rédacteur en chef depuis 40 ans, est en direct avec nous par téléphone. Je recevrai ensuite Éric Reynard, accompagné de deux des personnages de son nouveau roman. Il s'agit de Louis Pouzin et de Maurice Allègre. Vous ne connaissez pas leur nom et pourtant ce sont les deux pionniers français d'Internet. Si on les avait laissés faire, le réseau mondial serait peut-être né en France et pas aux États-Unis. Et puis on terminera l'émission avec Catherine Clément et son musée des sorcières. Pourquoi a-t-on brûlé des sorcières pendant des siècles et pourquoi les adore-t-on aujourd'hui? C'est ce qu'elle va nous raconter. Bonjour Marcel Gaucher. Vous êtes l'auteur du Désenchantement du monde, de l'avènement de la démocratie, des livres importants dans l'histoire des idées, mais vous êtes aussi le rédacteur en chef de la revue Le Débat, et cela depuis sa naissance, il y a 40 ans. Son dernier numéro sortira jeudi. Pourquoi vous sabordez-vous ?
Pour un ensemble de raisons qui font que le type de revue que nous faisions avec Pierre Nora en particulier, mon directeur, a perdu beaucoup de son sens. D'une part, sur le fond, du point de vue de la demande sociale, ce sur quoi vous mettiez l'accent, nous sommes dans une société qui, apparemment, éprouve de moins en moins le besoin de réfléchir sur son propre cours, pour des raisons fonctionnelles. Nous étions à l'intersection du monde universitaire qui produit les idées et du monde des médias qui les diffusent. Et on voit que entre les deux espaces, le lien est de plus en plus difficile à tenir. Et puis il y a une raison technique très simple qui font que le type de revue qui consiste à rassembler des éclairages multiples autour d'une question est contesté de fait, pas de façon explicite, mais en pratique, par le goût individuel qui fait que, au lieu de s'intéresser à un ensemble, on va aller chercher la contribution particulière qui vous intéresse, à titre tout à fait personnel. Alors vous mettez cet ensemble de choses bout à bout et vous comprenez bien que le type de revue, de réflexion non militante que nous fabriquions a perdu beaucoup de son sens dans le paysage actuel.
Pierre Nora a parlé de la baisse du niveau culturel de la société, y compris chez les élites dirigeantes, avez-vous ajouté. À qui pensiez-vous ? Les politiques, les médias ?
Les politiques et les médias, oui, ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est très clair. Encore une fois, j'y faisais allusion à l'instant, le besoin de réflexion. Tout le monde vous dit « Ah, mais jamais nous ne sommes dans un moment aussi incertain, aussi difficile à comprendre », mais apparemment, les gens qui nous dirigent, en particulier eux, n'éprouvent pas le besoin de ce travail, de comprendre ce qui se passe, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mal aussi dans l'exercice de leurs fonctions, on le voit tous les jours.
On a l'impression qu'on préfère le clash aujourd'hui hein, plutôt que le débat, hein, pas seulement dans les médias, au fond, les politiques, c'est pareil ?
Oui. Alors, les politiques ont des contraintes très particulières, mais pour eux, l'essentiel, c'est l'enjeu de pouvoir. Donc, s'ils sont au pouvoir, c'est de justifier leur action, et s'ils sont dans l'opposition, c'est de s'opposer au gouvernement en place. Mais la fonction principale qui devrait être celle de l'exercice du gouvernement, c'est-à-dire comprendre où nous en sommes et ce que ça appelle comme solution, dans la contradiction, bien sûr, personne n'est d'accord sur ce qu'il faut faire, cette fonction-là est évacuée au profit de la communication. Le mot magique qui a complètement corrompu la démocratie, c'est le mot de communication.
La communication, ça n'est pas de la politique et c'est rarement intellectuel.
C'est ni l'un ni l'autre. Le contenu est commandé par ce qu'on escompte comme effet favorable du message qu'on va donner aux auditeurs. Et d'autre part, ça n'a aucun rapport avec une réalité saisissable. Ce qui compte, c'est de plaire. Plaire ou faire plaisir ou séduire, mais en aucun cas avoir une prise sur la réalité. D'où le rapport direct entre la communication et la crise de la démocratie que tout le monde commence à bien constater.
Marcel Gaucher, il fut un temps, c'est vrai, où c'était les revues comme Les Temps modernes ou Commentaires qui lançaient les débats. Puis ce fut le tour des news magazines. Le manifeste des 343 sur l'avortement, c'était le Nouvel Obs, par exemple. La télévision aussi a joué son rôle, du moins tant que les intellectuels y avaient accès. Aujourd'hui, il reste encore des pages opinion des quotidiens, mais la plupart des débats naissent sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous ?
Alors, en un sens, ça représente un élargissement potentiel important. Ça veut dire que des choses qui auraient été méconnues par le cercle forcément limité dans lequel évoluaient toutes ces institutions que vous évoquiez, c'est très bien qu'on puisse aller au-delà. Mais la visée dans les réseaux sociaux est de se faire entendre par la radicalité du propos et la virulence de la dénonciation. On n'est plus du tout dans l'espace calme de la réflexion ou de la compréhension, qui implique aussi la contradiction. On est dans l'affrontement, la véhémence, la violence verbale, souvent, la volonté de faire taire ses adversaires, de les écrabouiller, hein, c'est la logique meurtrière des réseaux sociaux, qui ne tue personne physiquement, mais qui étouffe la voix moralement. Et du coup, c'est clair qu'au total, les grands espoirs qu'on avait investis dans le numérique, des espoirs de démocratisation, sont démentis tous les jours parce que nous voyons effectivement du fonctionnement des réseaux.
Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux aussi, on préfère le clash, c'est plus simple. Il y a les bons,
c'est surtout
les bons et les méchants.
Oui,
il y a les bons et les méchants au fond.
Oui, voilà, c'est un monde caricatural. C'est plus que les méchants d'ailleurs. Hein. Nous sommes entrés dans une nouvelle période d'engagement où c'est plus les bourgeois contre les prolétaires, mais les ennemis du genre humain contre ses défenseurs. Alors, dans ces conditions, faire entendre quelque chose qui relève de la compréhension d'une situation, on a guère de place.
Néanmoins, Marcel Gaucher, il y a tout de même eu des débats intéressants qui sont nés sur les réseaux sociaux. Je pense à MeToo, au référendum d'initiative citoyenne, le RIC, les débats sur les violences policières ou sur l'appropriation culturelle. Ils sont nés là et ils méritent qu'on s'y intéresse.
Non, mais est-ce que... Écoutez, est-ce que les questions soulevées par ces mouvements qui se sont déclarés sur les réseaux sociaux sont neuves? Non, c'est des questions vieilles de quelques décennies pour certaines. Alors, autant justement l'objet est légitime et n'a pas attendu les réseaux sociaux pour être posé, autant la manière dont chaque fois la dynamique interne de ces réseaux sociaux engage les protagonistes de ces discussions aboutit à leur stérilisation très rapide, au fait qu'ils laissent une trace importante dans les consciences, mais n'apportent aucune lumière véritable sur les raisons de ces problèmes et la manière de les résoudre. On a une espèce de fonction d'alerte qui ne débouche pas sur des perspectives pratiques. On va pas. Les violences policières ne vont pas, j'imagine, aller jusqu'à supprimer la police. Qu'est-ce qu'une police démocratique ? C'est très compliqué comme question. Elle est vieille. Elle date, pour ainsi dire, du régime démocratique lui-même. C'est pas dans ces genres de polémiques qu'on va trouver les issues aux questions qui sont soulevées. Et on peut, dans chaque cas, démontrer la même chose. C'est-à-dire, on a une sorte de dynamique de l'opinion qui va contre la réflexion qui serait nécessaire pour répondre aux questions soulevées.
Le problème aujourd'hui, d'ailleurs Delphine Horviller était interviewée tout à l'heure par Pierre de Villeneuve et elle le précisait, c'est que l'on parle entre soi, c'est entre gens qui partagent les mêmes convictions. Ce que l'on reproche aux radicaux en tout genre ou aux conspirationnistes de ne plus discuter qu'avec les gens avec qui ils sont d'accord, ne peut-on pas le reprocher aussi aux intellectuels, y compris à une revue comme Le Débat ?
c'est une tentation naturelle qui est vieille comme l'humanité. On préfère les gens avec lesquels on est d'accord aux gens avec lesquels on est en désaccord. Oui. Eh bien, précisément, le défi démocratique, c'est de dépasser cela. Et j'ose dire que c'est ce que nous avons essayé de faire dans le débat depuis le départ. C'est-à-dire d'éviter les universitaires parlent aux universitaires, les intellectuels parlent aux intellectuels. Il faut trouver le moyen. Alors, c'est une question très compliquée, puisqu'il y a une exigence de rigueur et du raisonnement qui appartient à un métier, c'est ce qui justifie qu'il y a un métier d'intellectuel en un certain sens, et d'autre part, l'accessibilité, le branchement sur les préoccupations communes et la capacité d'apporter de la lumière sur les questions que tout le monde se pose. C'est difficile à faire, mais la démocratie, c'est la hausse du niveau imposée par la difficulté de la tâche. Voilà, on y est. Si la démocratie, c'est la facilité, ou tout simplement, on la perd en route.
Et il ne faut pas faire. Faut-il faire l'impasse sur certains débats sous prétexte qu'on les trouve peu dignes d'intérêt ou mal posés, mais qui agitent une partie de la société, notamment dans la jeune génération. Je pense aux théories de l'effondrement, au véganisme, aux études de genre, au féminisme radical ou au décolonialisme. Il faut y aller là aussi.
Ah mais bien sûr, il faut traiter toutes les questions. C'est pour ça que nous essayons d'ailleurs de faire une revue généraliste, et c'est la raison pour laquelle, dans ce dernier numéro, qui est une sorte de conclusion de notre travail, nous avons justement essayé de donner un panorama aussi large que possible des transformations survenues dans le monde depuis 40 ans. Eh bien oui, il n'y a pas de question négligeable. La question, ce que nous avons voulu apporter une sorte de contrepoint méthodique justement à toutes ces interrogations qui naissent sans arrêt et auxquelles il s'agit d'apporter le traitement approprié, exigeant intellectuellement, rigoureux dans le raisonnement et informé du fond des questions. Là, contre la facilité, justement, journalistique ou contre les clichés qui très souvent résument ce genre de position dite radicale.
Merci.
Qui sont radicales dans la posture, mais qui ne sont pas radicales dans l'ambition intellectuelle de traiter réellement les questions soulevées.
Merci Marcel Gaucher d'avoir répondu en direct à nos questions. On se retrouve dans un instant avec Éric Reynard et Louis Pouzin et Maurice Allègre, les deux pionniers français d'Internet.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Éric Reynard, vous êtes l'auteur de L'amour et les forêts et de La chambre des époux. Vous publiez en cette rentrée littéraire Comédie française chez Gallimard. C'est l'histoire d'un garçon qui cristallise sur une jeune femme croisée un soir en Espagne, puis une autre fois à Paris et encore une autre fois place de la Bastille. Il se dit qu'on ne croise pas trois fois la même personne par hasard. Vous le pensez aussi ?
Ben oui, bien sûr. Je suis très attentif aux signes, peut-être trop au hasard. J'ai toujours été convaincu qu'il fallait dans la vie savoir s'attacher les bonnes grâces du hasard. Et voilà, je suis toujours à la recherche de pétrifiantes coïncidences, pour reprendre l'expression d'André Breton. Je pense qu'il faut savoir saisir dans la vie des énergies comme ça, souterraines, qui circulent et qui peuvent produire des événements. Et en effet, Dimitri est habité par une
c'est
foi.
C'est le héros, hein. C'est le héros,
Dimitri, 27 ans. Est habité par la foi qu'il pourrait lui arriver, s'il sait bien s'accorder aux énergies du monde, des choses qui pourraient changer sa vie et la rendre aussi heureuse qu'il pourrait le souhaiter. Et je suis un peu comme ça, à vrai dire également. Je suis très, très attentif à ce qui se passe autour de moi et à décrypter les signes.
La troisième fois qu'il croise cette jeune femme, c'est au Café Français, place de la Bastille, où il a rendez-vous avec Louis Pouzin, car il y a un roman dans le roman dont Maurice Allègre et Louis Pouzin sont les héros. Ils sont là tous les deux dans ce studio. Louis Pouzin, vous êtes l'inventeur du datagramme qui va permettre de créer Internet. Vous êtes une légende et en même temps, on ne vous connaît pas. Et c'est formidable que ce roman puisse vous rendre justice.
C'est en effet assez inattendu parce que je n'ai jamais compté sur les œuvres littéraires pour me faire connaître.
pour qu'on comprenne bien, et là j'ai besoin d'Éric Reinhardt, pour qu'on comprenne bien en quoi vous êtes l'un des pères, voire le père d'Internet. Pourquoi est-ce que vous en avez fait un des héros de votre roman?
Parce que je suis tombé sur une brève dans Libération en 2013 qui annonçait que Louis Pouzin, en compagnie de quelques autres scientifiques de différentes nationalités, allait être décoré par la reine d'Angleterre pour avoir été l'un des pères d'Internet. Et là, je buvais mon café un samedi matin en lisant Libération. Je me suis dit, ciel, un Français, l'un des pères d'Internet. Mais alors, comment se fait-il qu'Internet n'a pas été créé en France? Et alors, j'ai décidé de m'intéresser à Louis Pouzin et je suis allé sur Internet et j'ai vu qu'en effet, Louis Pouzin avait créé le datagramme abandonné par les pouvoirs publics en 1974, par Valéry Giscard d'Estaing en l'occurrence. Et donc, les Américains s'en étaient emparés. En le dénaturant, et Louis Pouzin nous expliquera peut-être pourquoi tout à l'heure, pour créer Internet. Et donc, tout le monde pense dans le monde entier qu'Internet est l'invention géniale des seuls Américains d'ARPANET. Or, ce récit-là est faux par omission, et notamment l'omission du datagramme de Louis Pouzin, qui a été donc poussé.
Financé.
Le plus qu'il le pouvait par Maurice Allègre.
Oui, financé par le plan calcul qui avait été décidé, créé en 1966 par le général de Gaulle pour rivaliser avec les Américains sur le marché de l'informatique. Et le projet Cyclades, qui était un projet pilote de réseau de transmission de données, on faisait des recherches sous l'égide de la délégation générale de l'informatique que dirigeait Maurice Allègre. Vous saviez que vous teniez quelque chose de révolutionnaire, Maurice Allègre ?
On le pensait, oui. Je me souviens. Un de mes collaborateurs m'avait amené un jour un brillant informaticien qui avait des idées très avancées, très originales. Et nous avons monté une équipe autour de lui à l'IRIA. On a fabriqué un projet pilote pour lui à l'IRIA, c'est-à-dire l'Institut de recherche en informatique et informatique, qui était fait pour faire des recherches avancées. Et c'est comme ça que nous l'avons financé. Et tout ça avait été créé par le plan calcul, bien sûr.
Louis Pouzin, vous imaginiez déjà l'Internet, vous ?
Quand je le faisais, oui, parce que ça me paraissait que ça coule de source, la technique. Une fois qu'on a inventé A, on invente B, C, D, etc. Donc on voyait très bien la manière dont ça allait se développer. Et on voyait très bien aussi la manière dont on pouvait se tromper pour le faire. Enfin, ça s'est arrivé assez vite d'ailleurs, parce que on a commencé en 71. En 72, on avait un premier réseau qui marchait. Il a marché c'est quand Giscard est arrivé, c'est le 74.
Non ? En tant que président de la République, il est élu en 74, mais avant cela, il est ministre des Finances.
Oui, mais là, il n'avait pas d'influence là-dessus. Alors donc, c'est quand il est devenu président qu'il a été embobiné par Ambroise Roux, qu'il a décidé de mettre Cyclades à la poubelle. Mais pas simplement Cyclades, également la délégation à l'informatique, également ce que Thomson commençait à faire à l'époque, c'était des ordinateurs. Donc il a mis la pagaille partout pour que la CGE soit le seul industriel, en tout cas un industriel assez peu concurrencé, de manière à solidifier le groupe Compagnie Générale d'Électricité.
La Compagnie Générale d'Électricité qui employait 180 000 personnes et qui était dirigée par Ambroise Roux. On en parle juste après une pause.
C'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes toujours avec Éric Reinhardt qui publie Comédie française chez Gallimard. Et dans Comédie française, il y a un récit dans le roman. Ce récit, c'est celui de l'aventure de Louis Pouzin qui est un des pères d'Internet et de Maurice Allègre qui dirigeait la délégation générale à l'informatique. Éric Reinhardt, pardonnez-moi. C'est vrai que Louis Pouzin vient de prononcer le nom d'Ambroise Roux, celui de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est vrai que pour vous, dans le livre, vous dites tout ça, c'est de la faute d'Ambroise Roux, qui était pourtant un polytechnicien à l'époque.
Oui, mais comme l'expliquerait bien mieux que moi Maurice Allègre et Louis Pouzin, il y avait une réelle concurrence entre l'establishment des télécoms et cette engeance considérée comme subalterne, inopportune, des informaticiens. Voilà. Et donc, en fait, Ambroise Roux ne tolérait pas, ainsi que d'autres du milieu des télécoms, que des informaticiens viennent se mêler de télécom, de réseaux de transmission de données, etc. Donc il y avait déjà, une espèce de rivalité corporatiste. Et puis par ailleurs, il y avait une grande, comme vient de le dire Louis Pouzin, une grande rivalité entre la CGE et Thomson. Et donc Ambroiseau, tout ce qu'il pouvait faire pour contrer Thomson et son président, Paul Richard, il le faisait, et notamment torpiller tout ce qui pouvait avoir trait de près ou de loin à l'informatique, dont le plan calcul, le datagramme, le réseau Cyclades, etc. Donc enfin, des motivations industrielles assez sommaires, en fait, de concurrence et d'attaque. Mais je vais laisser peut-être Maurice Allègre.
Oui, Maurice Allègre, en octobre 1973, vous recevez un coup de téléphone, vous apprenez que c'en est fini de Cyclades, ce projet de réseau de transmission de données. La délégation générale de l'informatique est dissoute en 1974 après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, en même temps que le plan calcul et en même temps que le consortium informatique européen, Unidata, où il y avait la France et l'Allemagne qui voulaient rivaliser avec les Américains. Pour vous, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est sous l'influence d'Ambroise Roux à ce moment-là ?
Oui, incontestablement. Comment vous appelez ça, Eric ? Les forces obscures sont souvent positives, mais quelquefois négatives. Et là, j'en ai rencontré une qui était particulièrement négative, pour les raisons qui ont été expliquées. Et finalement, l'abandon du projet Cyclades, c'est un dommage collatéral, comme on dit dans le langage militaire, de la chute du plan calcul. Alors pourquoi effectivement Ambroise Roux a-t-il fait ça ? C'est parce que il était devenu l'ennemi absolu de Paul Richard, le patron du groupe Thomson, qu'il voulait absorber, par parenthèse. Mais ça, c'est une autre histoire, qui n'a pas réussi. Celle-là, il n'a pas réussi. Et les deux étaient associés dans le capital de la société qui fabriquait les ordinateurs du plan calcul. Donc, vous imaginez les tiraillements que ça pouvait provoquer. Et lorsque Paul Richard a voulu venir sur la chasse gardée d'Ambroise Roux, qui étaient les centraux téléphoniques, il a considéré qu'il fallait, par tous les moyens, lui faire du tort. Et donc, au point le plus sensible qui était l'informatique, le plus exposé aussi, si vous voulez. Et voilà pourquoi il est parti en guerre contre la société dont il était un actionnaire important.
Et moi, là, c'est vrai que Eric, les situations où des individus subordonnent l'intérêt général aux intérêts particuliers, en fait, c'est vraiment mon sujet, c'est des choses qui me passionnent et que j'adore.
Mais ce qui arrive souvent, une entreprise, elle est là pour faire du profit. Il se trouve qu'Ambroise
Roux... Tout à fait, mais là, il y a eu un aveuglement, c'est-à-dire qu'Ambroise Roux se faisait passer aux yeux de tous les décideurs, et en particulier des présidents de la République et trois présidents de la République successifs, comme un visionnaire, quelqu'un qui savait anticiper l'avenir, qui comprenait mieux que quiconque les situations du temps présent et donc la façon dont elles pouvaient évoluer, qui prétendait... savoir anticiper le comportement de ses adversaires, analyser le fonctionnement du cerveau, etc. Donc il s'est toujours fait passer pour quelqu'un qui voyait l'avenir, donc on le consultait comme un oracle. Simplement là, il a trompé les personnes qu'il conseillait en leur faisant croire qu'il les conseillait pour le bien de la France, alors qu'en réalité, comme vient de l'expliquer Maurice Allègre, il défendait des parts de marché et la poule aux œufs d'or qui était c'est vraiment très très intéressant à démonter de l'intérieur quand on est écrivain de s'introduire dans ce genre de mécanisme.
Et il a embarqué l'informatique française dans une voie absolument sans issue, puisque c'était une alliance avec Honeywell Bull, et tout le monde a peut-être encore en mémoire la très lente et catastrophique descente aux enfers de Bull.
Mais il y a eu Minitel aussi. Le Minitel,
ça c'était une invention excellente d'ailleurs des télécoms. Mais c'était dans une voie qui finalement n'a pas débouché.
Qui était une
Autrement
impasse.
Autrement dit, il ne faut pas dire que les télécoms n'ont rien compris et qu'ils étaient des gens bornés, pas du tout. Simplement, ils étaient dans un milieu télécom où on leur avait appris que... il fallait relier un point à un autre pour qu'une conversation s'établisse.
C'est comme ça que fonctionnait le Minitel. Mais ça n'est pas comme ça que fonctionne Internet.
Voilà.
Vinton Cerf et Bob Kahn, qu'on considère aujourd'hui comme les pionniers d'Internet, eux, ils ont choisi le datagramme, Louis Pouzin ?
Trop tard. Ils avaient 10 ans de retard. Hein.
Comment aurait été Internet si Cyclades, votre réseau, avait pu prospérer ? En quoi ce serait différent aujourd'hui, à votre avis ?
Ce qui serait différent, et ça l'est toujours, ça l'est de plus en plus,
c'est la multiplicité des solutions techniques pour faire des réseaux informatiques.
Et la question de la sécurité aussi, dont tu m'as souvent parlé.
La sécurité, oui, c'était quelque chose auquel on avait pensé, bien sûr, mais comment faire, on ne savait pas trop. Et personne n'avait d'idée très nette là-dessus, ce qui fait qu'on avait en effet, quand on a fait Cyclades, il n'y avait pas de sécurité. Mais il y avait une sûreté de fonctionnement qui était supérieure à celle de l'Internet.
Actuel.
Actuel, oui.
Éric Reinhart, c'est vrai que quand on lit votre roman et qu'on apprend tout ce qui s'est passé, à ce moment-là, on se dit que pendant le confinement, où on était en totale dépendance des outils et des applications américaines ou chinoises, au fond, ça s'était joué à cette époque-là. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avez-vous eu envie d'en faire un récit dans votre roman ? C'était trop bien, il fallait en parler ?
Moi, j'adore hybrider les genres. Cette histoire, elle m'a passionné, surtout que quand j'ai commencé à enquêter sur Ambroise Roux, je me suis rendu compte qu'en effet, c'était un véritable personnage de roman, assez fascinant, très complexe. Et donc, j'ai rencontré pas mal de gens qui l'ont côtoyé, rencontré, et j'avais vraiment une matière. Et puis voilà, Louis Pouzin et Maurice Allègre, j'avais envie aussi de les mettre en scène dans le livre, et donc d'hybrider comme ça. Un roman avec une ligne narrative et fictionnelle forte avec ce personnage, Dimitri, et ses aventures amoureuses, professionnelles et familiales, etc. Et d'hybrider, c'est-à-dire à l'intérieur du roman, mettre un vrai documentaire en réalité, une vraie enquête, et que ça produise comme ça une esthétique de tension et de rupture de tonalité. Ça, c'est quelque chose que j'adore et qui me procure du plaisir quand je le fais. Et en l'occurrence, là, je dois dire que j'étais vraiment fasciné de rencontrer, de dialoguer avec deux des pionniers d'Internet. Maurice Allègre et Louis Pouzin ont eu entre les mains, avant tout le monde, ce qui est aujourd'hui devenu...
Oui, un dernier mot.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse faire de l'histoire conjecturale. Je ne sais pas si Unidata aurait réussi aussi bien qu'Airbus.
C'était le consortium informatique européen.
Nous partions de beaucoup plus loin, bien entendu. Je ne sais pas du tout, finalement, quel aurait été le rôle de la France dans l'Internet qui aurait existé à ce moment-là. Certainement un rôle important, ce qu'elle n'a pas eu. Ça, je le sais. Je le sais de manière certaine. Voilà, c'est tout.
Merci Maurice Allègre, merci Louis Pouzin, merci Éric Reinhart. Comédie française, ça vient de paraître chez Gallimard.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Catherine Clément, vous êtes romancière et philosophe. Vous publiez Le Musée des sorcières chez Albin Michel, un essai sur ce crime contre l'humanité, c'est le mot que vous employez, hein, qui a consisté à condamner des femmes au bûcher sous prétexte qu'elles étaient sorcières. Combien de temps ça a duré en Europe ?
De 1400 et des poussières jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Chez nous, ça s'est arrêté avec Madame de Montespan. C'est l'affaire des poisons et la suspicion de sorcellerie immédiate qui pesait sur elle. C'est venu des femmes de magistrats. D'abord, il y a eu ça d'abord. Puis les femmes de magistrats ont bavardé. Elles ont ajouté un certain nombre de personnes de la cour, dont Madame de Montespan. Et là, il y a eu cette ordonnance générale. Il y a surtout un truc très drôle qui est le mémoire en défense de Madame de Montespan. Écrit par Colbert, figurez-vous. C'est
oui.
Inouï, ça.
Oui. En Suisse, ça va jusqu'au XVIIIe siècle. Hein,
Oui, les plus tardives, c'est au XVIIIe siècle. Moi, je ne parle que de la France, avec des pointes en Afrique et en Inde, mais enfin, je ne m'occupe pas de toute l'Europe.
Hein. Oui, parce que, et puis c'est pas qu'en Europe. Hein. En Amérique, on se souvient de l'affaire des sorcières de Salem. Vous dites que c'était déjà dans l'Ancien Testament. Tu ne laisseras pas en vie la sorcière en terre d'Israël.
Ah ben, c'est ça qui a légitimé tout le substrat théologique catholique, enfin chrétien en général. Ça, c'est certain. C'est ça qu'on trouve en tête, tu ne laisseras pas en vie de la sorcière. Mais enfin, dans le texte sacré de la Bible, il n'y a pas une condamnation si féroce tout le temps répétée. Tandis que dans le marteau des sorcières, je croyais connaître par cœur. Là,
le marteau des sorcières, il faut que vous nous disiez de quoi il s'agit.
Ça a été publié en 1486, ça n'est pas le premier traité, c'est le troisième ou quatrième traité d'inquisition contre les sorcières. Donc comment on fait pour reconnaître une sorcière ? À quel indice on reconnaît qu'il y a une sorcière ? C'est un fatras absolument épouvantable, rédigé par un inquisiteur et demi. Il y en a un qui signe et l'autre qui écrit. Et c'est prodigieux de naïveté, puisque en le relisant, ce texte que je croyais vraiment connaître, ça tourne autour d'une seule chose. Un homme peut-il bander s'il a une sorcière à ses côtés ? Oui ou non ? La verge est-elle mobile ou immobile ? Combien de temps ? À quel degré de, d'érection ? Ça va jusque-là. Hein. Et la reconnaissance de la sorcière est formidable, puisque les deux signes principaux, c'est qu'elle ne pleure pas. Donc on la met en face de soi et on dit « Si tu es coupable, ne pleure pas. Et si tu es innocente, pleure. » Vous pensez comme c'est commode. Et l'autre point très important, c'est ce qu'on appelle la taciturnité. C'est-à-dire, elle se tait. Elle ne répond rien, elle ne dit rien. Il y avait beaucoup de vieilles paysannes qui ne comprenaient pas un mot du latin qui leur était parlé, qui ne comprenaient pas un mot, qui restaient silencieuses. Donc il en est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorcières. C'était particulièrement dans le Pays basque français.
Oui, là où il y a 80 personnes qui sont brûlées en 1609, sous ce bon roi Henri IV.
Oui, enfin, il a signé l'ordonnance pour purger le Pays basque de ses sorcières la veille de son assassinat, donc il n'a pas eu le temps d'en voir beaucoup. C'est quand même incroyable, ça.
Mais pourquoi avez-vous eu envie de parler des sorcières, Catherine Clément ? Vous n'êtes pas la seule, hein, il y a aux États-Unis, un peu partout.
Alors figurez-vous, j'ai fait un premier livre sur les sorcières en compagnie d'Hélène Cixous en 1975. Donc déjà, je m'étais attaquée aux sorcières. Et déjà, j'avais parlé du marteau des sorcières, mais je n'avais pas compris l'importance de la verge mobile ou immobile, ni du degré d'érection. Ça, je ne l'avais pas vu, véritablement vu. Et puis j'ai quand même parcouru le monde, comme vous savez, j'ai quand même beaucoup vécu à l'extérieur de la France et à l'extérieur de l'Europe, et j'ai vu d'autres formes de sorcellerie, qui sont soit beaucoup plus bénignes, comme en Afrique, où on dit qu'on est sorcier, bon, ben, on vous fait une thérapie, puis c'est fini. Ou en Inde, alors là, c'est beaucoup plus grave, parce que c'est tout de suite le bûcher.
Mais il y a, en Inde, il me semble, c'est de l'ordre du sacrifice humain, non ?
Si vous parlez des satis, des veuves qui décident, attention, c'est un acte volontaire, vérifié par un tribunal de brahmanes. Pour vérifier, ils mettent un tison sur le bras et il faut que la celle qui veut se brûler tienne, hein, si elle veut vraiment se brûler.
Brûler au moment de
quand son mari est mort, elle monte sur le bûcher, elle prend la tête de son mari dans son giron et elle donne à son jeune frère l'ordre d'allumer le feu. Voilà. C'est un sujet inépuisable. D'abord, quand même, quand je suis arrivée en Inde officiellement, en 1987, une jeune fille de 17 ans l'a fait, je ne dirais pas sous nos yeux, mais on venait d'arriver quand même. 17 ans. Tout le monde a cru qu'elle avait été forcée. Non, pas du tout, c'était la pression sociale. Rajiv Gandhi n'a pas eu d'autre défense, il était Premier ministre à l'époque. Il n'a pas eu d'autre défense que de couper les routes, figurez-vous. Il a coupé les routes pour que les pèlerinages, en l'honneur de cette jeune fille, sacrifiée volontairement, cessent. Et c'était très compliqué. J'ai mis longtemps à comprendre l'avantage qu'on avait à se faire brûler comme ça. Alors, il y en a trois. Premièrement, vous devenez une déesse, tout de suite. Deuxièmement, vous avez une heure avant la mise à feu pour condamner qui vous voulez de votre famille à toutes les punitions que vous voulez. Et troisièmement, vous avez la même heure pour répartir l'héritage. Donc quand même, il y a de menus bénéfices.
On fait une pause, Catherine Clément, et on revient sur les sorcières, les nôtres.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Dans le musée des sorcières que vous venez de publier, Catherine Clément, on voit bien qu'il y a des sorcières et pas tellement de sorciers. C'est forcément féminin. Alors que leur reproche-t-on exactement à ces sorcières ?
Alors leur regard, leurs cheveux dénoués, c'est-à-dire c'est une époque où on voile les femmes en Occident. On voile en tout cas tout ce qu'il y a de cheveux. Donc leur regard, leurs cheveux dénoués, leur voix. On leur reproche leur voix. On leur reproche quelquefois d'être rousses. C'est pour ça que Marlène Schiappa a eu droit à Schiappa au bûcher. Hein, c'est parce qu'elle est rousse, il n'y a pas d'autre raison. C'est venu du fond des âges, cette histoire-là. Et on leur reproche rien du tout s'il n'y a rien de tout ça.
On leur reproche de danser, la sarabande par exemple, qui devient la danse des sorcières à un moment.
Ça, c'est dans le Pays basque, c'est dans le sud de la France en tout cas. Oui, parce que dans la sarabande, la volte en Angleterre, c'était pareil, on sautait. Alors, la démonstration de l'inquisiteur, qui est en l'occurrence un magistrat de Bordeaux, de la famille de Montaigne, hélas, qui est tout à fait incroyable. Et ils ne savent même pas, quand elles sautent, qu'elles peuvent avorter. Donc c'est une danse qui provoque l'avortement. C'est une danse sorcière, donc. Et dans le cas de celui-là, qui s'appelait Pierre de l'Ancre, on atteint des sommets de conneries, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Parce qu'il est totalement séduit par ces femmes, les labourdines, hein, celles du pays des labours, le Pays basque.
Oui.
Elles ont les cheveux dénoués, elles se baignent nues dans la mer, vous vous rendez compte. Leurs maris ne sont pas là, et elles mangent des pommes, ce qui est le plus grave. Hein. Elles mangent des pommes comme Ève, donc elles sont sorcières. Enfin, il y a une accumulation de, tout ce qu'on trouverait formidable, nous, quoi. Qui ressemblerait, je ne sais pas, moi, au Crazy Horse, ou à une représentation du paradis, et qui, lui, font envoyer au bûcher 80 personnes, dont 60 sorcières. Là, je pense qu'il faudrait un mémorial. Je lance un appel pour un mémorial, là.
La sorcière va désigner, et elle désigne encore aujourd'hui quand même, la femme libre. Hein. On a l'impression, et en vous lisant, j'ai eu l'impression que la première, c'était Carmen, au fond, l'héroïne de Mérimée et de Bizet. Elle se désigne elle-même comme une sorcière.
Tout le temps.
Et c'est la première sorcière positive, celle dont on va épouser la cause.
Enfin, celle dont nous, de notre temps, maintenant... Nous allons épouser la cause.
C'est vrai que ça n'a pas eu beaucoup de succès quand ça a débuté, mais ça a marché assez vite quand même, Carmen.
Carmen, comme une victime de féminicide, c'est récent. C'est très récent. Ce n'était pas comme ça du tout à la création.
Le mot féminicide n'existait pas.
Non. Même mon frère, quand je lui ai dit le féminicide de Carmen, m'a dit « Mais de quoi tu me parles ?» Il ne comprenait pas. Et pourtant, oui, c'est un féminicide. Et
pourquoi ? Alors dites-le nous, pour que si votre frère n'a pas compris, peut-être que d'autres, et moi compris, nous n'avons pas compris non plus.
Quand même, l'histoire d'une gitane, population sorcière par excellence, elle a les cheveux dénoués, enfin, elle a une fleur au bec, la fleur de cassis, elle a une très belle voix, enfin bon, elle a tous les signes, elle ne ferme jamais sa gueule, donc elle a tous les signes de la sorcellerie, et elle rend fou d'amour un officier de Navarre, du Nord, hein, et qui est un officier plutôt placide. Et à la fin, elle est tellement légère et tellement...
Qu'il la tue.
À la fin, il la tue. Ouais. À la fin d'un duo absolument admirable, musicalement et dans les textes, il la tue et se repent immédiatement de l'avoir tuée.
Hein. On appelait ça un crime passionnel à l'époque.
Ben oui, mais donc on voit bien sur scène un féminicide.
Ma sorcière bien-aimée, ce feuilleton américain que tout le monde entier va regarder hein, dans les années 60-70, au fond, ça prépare à Harry Potter, c'est-à-dire une version véritablement positive de la sorcière. Oui. C'est la sorcière adorable qui va donner l'école des sorciers où les petits garçons et les petites filles adorables viennent jouer et pratiquer la sorcellerie.
Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ça dit, dans les campagnes, c'est pas tout à fait pareil.
Vous pensez les...
Ah oui.
Parce qu'il y a sur TikTok, il y a le hashtag Witchtok qui cumule 2,6 milliards de vues. Je me suis renseigné avant de vous voir.
Dans le monde
médiatique. Les enfants s'échangent des trucs de sorcellerie qui sont évidemment de la sorcellerie très gentille.
Vous avez tout à fait raison. Mais dans le monde médiatique, c'est ça. Cela dit, Jeanne Favret-Saada, qui a fait les grandes études sur la sorcellerie.
À qui vous dédiez votre livre,
oui.
Vous dire.
Et dont je raconte le périple aussi, qui était extraordinaire, puisqu'elle s'est fait désenvoûter pour comprendre ce que c'était. C'était en Mayenne, elle a fait ça dans les années 60-70, et bien les mêmes processus se répliquent maintenant en Anjou, c'est juste à côté, je les ai vus à l'œuvre, moi-même de mes yeux. Donc ça n'a pas changé. Ça a changé de langage, on ne parle plus patois, on parle autrement le français, mais j'ai demandé, est-ce qu'il y a une tireuse de cartes qui dirait l'avenir? Ah, mais bien sûr, il y a Madame Machin, mais attention, il faut être recommandé, il ne faut pas avoir le centre fort, exactement la même chose. Et ça, c'était en août dernier.
Ça vous a fait peur ou ça vous a réjoui ?
Non, ça m'a ravi.
Ça vous a ravi, c'est bien ce qui me semblait. Merci Catherine Clément, le musée des sorcières est paru chez Albin Michel. Vous aimeriez bien qu'il ouvre en vrai ce musée hein ?
Oui, et ce n'est pas si compliqué que ça. Ça pourrait être d'ailleurs un mémorial aussi. Il y a un très beau mémorial en Norvège. En mémoire de 90 sorcières qui ont été brûlées. C'est un mémorial qui a été fait par Louise Bourgeois, qui est magnifique, avec une chaise en feu et le grand air. C'est magnifique.
Merci Catherine Clément.
Merci à vous. Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. Mickaël Darmon vient d'entrer dans le studio. Quel est le programme du grand rendez-vous avec CNews et les Échos, Mickaël ?
Eh bien, Bruno Le Maire donc, est notre invité, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Plan de relance ou plan de la dernière chance, il va tout nous dire.
Merci Mickaël, nous on se retrouve samedi prochain et je vous souhaite un très bon dimanche sur Europe 1.